Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est en direct sur RMC. Pas d'after GG tout à l'heure à 13h40. On revient pas avec vous en direct au 32-16, mais vous n'y perdez pas au champ puisque vous entendrez Carl Zéro. Carl Zéro qui vient avec sous le bras un DVD, plutôt un film. Pour ceux qui ont acheté VSD la semaine dernière, vous avez déjà peut-être vu le film. Il s'appelle Sego et Sarko sont dans un bateau. Il sort aujourd'hui sur les écrans. Et Carl Zéro a fait comme pour le film précédent Dans la peau de Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il a compilé tous les extraits télévisés de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal.
Oui, si vous aimez son style, le style de Carl Zéro, le style du vrai faux journal, feu vrai faux journal sur Canal+, vous adorerez ce DVD et ce film qui sort en salle. Ségo et Sarko sont dans un bateau. C'est un point de vue très subjectif, comme le dit lui-même Carl Zéro, sur deux des principaux candidats à l'élection présidentielle. Ah, et c'est vrai qu'il a oublié Le Pen. Il aurait pu faire aussi un Le Pen Bayrou sont dans un bateau, par exemple.
C'est vrai. Absolument. Bonjour Bruno Gollnisch.
Bonjour.
C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, il a 50 ans de carrière politique derrière lui, on l'a vu à la télévision. Il a peut-être dit tout son contraire, un peu comme les deux autres.
Ah ben justement non, Il n'a pas varié dans ses analyses et d'autant moins qu'elles sont reprises par les autres. Tout le monde lui court après aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'identité nationale par exemple, qu'il s'agisse de Bayrou. Il y a trois jours, la suppression de l'école nationale d'administration.
L'ENA.
Qui produit automatiquement, à partir de gens d'ailleurs brillants et souvent sérieux quand même, mais une espèce de caste, alors qu'il faudrait que les concours de chaque catégorie de fonctionnaires soient particuliers, comme c'était le cas autrefois. Il y avait le concours de la diplomatie, le concours de l'inspection des finances, et puis qui est un centre de formation à mi-parcours.
Qu'est-ce qui lui a pris à votre patron de vouloir relever la vitesse sur autoroute et relever également le taux d'alcoolémie? Il avait besoin de se relancer dans sa campagne?
150 km/h, dit-il.
Non, pas du tout, mais c'est d'une façon plus générale de dire qu'il y en a ras-le-bol de la persécution d'un certain nombre de gens qui sont honnêtes, qui ne mettent pas forcément en danger la vie d'autrui, qui paient leurs impôts, qui paient leurs taxes, qui paient les voitures que l'on vend en France, de moins en moins d'ailleurs, parce que, comme vous les avez pu le constater, les ventes de Renault ont baissé de 14%, je crois, ce mois-ci, 13% l'an dernier. Oui, je crois que les gens en ont assez. Les gens sont culpabilisés. Les programmes, aussi bien à la mairie de Paris qu'à Lyon, consistent essentiellement en matière d'urbanisme à essayer de leur pourrir la vie.
Et moins de 2000 morts sur les routes.
Pourrir la vie.
C'est pas important.
Mais c'est pas en tout cas le problème. C'est pas en tout cas le problème de l'autoroute, puisque l'autoroute, d'après les statistiques même de la direction de la sécurité routière, est 4 fois plus sûre que les routes nationales.
Donc Le Pen, alors commençons des automobilistes verbalisés.
Commençons de ceux qui n'ont pas mis en péril la vie d'autrui.
Mais oui,
ceux qui ont été verbalisés parce que, en arrivant sur un panneau d'interdiction, ils n'ont pas freiné brutalement, ce qui est extrêmement dangereux, d'ailleurs, et que quelques mètres après, ils ont été rattrapés par un radar et verbalisés avec 2 ou 3 km/h de dépassement opérations qui relèvent du racket. Alors, l'alcool.
Le conducteur bourré, parlons, il vote Le Pen.
Mais non. Parlons de l'alcool. Il ne s'agit pas, au contraire, d'encourager l'alcoolisme au volant. Il s'agit d'avoir des lois raisonnables. Parce que seules les lois raisonnables peuvent être effectivement sanctionnées. Par exemple, quand on a introduit la limite du taux d'alcoolémie, ce qui est une excellente mesure, c'était à 0,80 g par litre de sang. Bon, maintenant, on en est à 0,25. Or, il n'est pas vrai que les gens qui seraient à 0,30 ou à 0,35 sont en état d'ébriété. Alors, évidemment, on cherche par tous les moyens à culpabiliser les gens en méconnaissant souvent d'ailleurs ce qu'il y a de plus grave, parce que ce n'est que de façon tout à fait récente et partielle qu'il y a par exemple le contrôle de la toxicomanie au volant, qui est tout aussi grave sinon plus que le contrôle de l'alcoolémie.
Ça veut dire que le bilan en matière de lutte contre l'insécurité routière de Jacques Chirac et du gouvernement actuel est mauvais?
Non, j'ai pas dit ça.
Alors, si vous êtes en train de remettre en cause toute la mesure.
Je dis avec un certain nombre d'associations, avec un certain nombre de magistrats. Je pense par exemple à deux juges d'instruction, messieurs Gallo et De Maillard, qui ne sont pas des amis du Front National et qui ne sont pas des rigolos et qui ont sorti un bouquin dans lequel ils disent que l'automobiliste devenu politiquement incorrect est le dernier exutoire d'un État par ailleurs impuissant. Et qui, pour affirmer en quelque sorte son autorité, persécute des gens. Il y a des radars qui sont rentabilisés en 2 ou 3 heures de temps, parce qu'on les met pas du tout avant les points noirs ou les endroits dangereux, mais au contraire aux endroits où l'on circule le mieux et sans danger, parce que c'est là qu'on est sûr d'attraper, des automobilistes.
C'est Bruno Gollnisch, le possesseur d'une Chevrolet Camaro, un V8 de 200 et quelques chevaux, qui a soufflé ça à Jean-Marie Le Pen.
Non, c'est Bruno Gollnisch, citoyen et automobiliste.
Mais vous avez une Chevrolet qui c'est une voiture américaine.
Ça prouve que je ne suis pas anti-américain, mais l'équivalent n'existe pas en France. Autrement, ma fille a une Twingo et ma femme a une 206. Mmh. Voilà, l'équivalent n'existe pas en France. J'ai trouvé cette voiture pour le prix d'une petite voiture, car elle était d'occasion. J'en suis très content et je respecte les limitations de vitesse. Je trouve que le système est abusif. Et surtout, ce qu'il y a d'abusif, c'est que quand un justiciable estime ne pas avoir commis d'infraction, on l'intimide. Relisez le rapport de M. Delevoye à ce sujet. M. Delevoye est plus proche de Jacques Chirac que de Jean-Marie Le Pen. C'est le médiateur de la République. Il a fait un réquisitoire implacable contre une répression qui pratique véritablement le chantage et le racket, notamment l'obligation, si vous voulez contester à vos risques et périls un procès verbal et aller devant le tribunal de police comme c'est votre droit de citoyen, l'obligation de payer d'avance l'amende, ce qui introduit une injustice, parce que ça veut dire ça, que le contribuable ou le citoyen qui en a les moyens, lui, va pouvoir contester. Celui qui n'en a pas les moyens ne va pas pouvoir contester.
En tout cas, Jean-Marie Le Pen est fidèle à ses convictions, parce que quand il roule, c'est pas lui qui conduit mais son chauffeur, il va au-delà même des 150. Les journalistes d'Auto Hebdo l'ont flashé à 185 km/h.
Bravo. Vous m'étonnez.
Bravo, je vous le donne, tenez, Auto-Hebdo. Il n'est pas le seul, hein. Sarkozy fait même pire que lui.
Et M. Perben, ministre de la Justice.
Enfin, tous ces responsables politiques ne sont pas exemplaires, et pourtant, ils devraient montrer l'exemple.
Oui, je suis de cet avis, tout à fait.
Et pareil pour Jean-Marie Le Pen.
Mais absolument.
Bruno Gollnisch est avec nous aujourd'hui dans Les Grandes Gueules. On va commenter l'actualité avec vous. Bruno Gollnisch, on va parler bien sûr de la campagne électorale. C'est l'essentiel d'ailleurs avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui n'est plus le troisième homme. Hein. Il est numéro 4 pour le moment dans les sondages, Bruno Gollnisch.
Il perd une place.
François Bayrou vous a grillé là. Hugo, c'est lui qui vous a doublé. Il n'a pas mis le clignotard. Vous l'avez pas vu venir. Hein.
Personne n'a jamais voulu de Jean-Marie Le Pen comme troisième homme. J'ai le souvenir à peu près à la même époque, de la campagne de 2002, j'étais sur un plateau comme celui-ci avec votre confrère M. Calvi, avec M. Lesch, président d'un institut de sondage, un grand institut de sondage, avec M. Perrineau du Centre de la vie politique française, politologue estimé. Personne ne voulait admettre que Jean-Marie Le Pen était le troisième homme. Note que, à leur corps défendant, ils avaient raison, puisqu'il est arrivé en finale. Il fallait, alors que Chevènement s'effondrait dans les sondages, absolument trouver quelqu'un d'autre. Ça devait être Arlette Laguiller. Lesch disait même que Le Pen ne ferait pas un score à deux chiffres. En d'autres termes, il ferait en dessous de 10%. Or, aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est beaucoup plus élevé dans les sondages qu'il ne l'était à la même époque.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est même encore au-delà, d'ailleurs?
Le fait que systématiquement, les sondages nous ont toujours sous-estimés. Moi, depuis 1984, que je me présente aux élections, jamais je n'ai obtenu un sondage qui m'ait donné la moitié du score que j'ai finalement obtenu. Donc c'est quand même extraordinaire. En 84, je suis en queue de liste sur la liste des européennes. On nous dit, vous ne ferez pas 3%, on fait 10. En 86, on me dit, sondage qui paraît sur France Inter, vous ne ferez pas 6%. On fait 13, je suis élu député et conseiller régional. Et ainsi de suite.
Mais
je
pourrais vous donner cette litanie. À la différence de 2002, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de candidats anti-système. Alors il y a Jean-Marie Le Pen, il y a les candidats à la gauche de la gauche, mais il y a aussi François Bayrou qui lui-même se présente comme étant le candidat anti-système. En fait, vous êtes fait un peu piquer au fonds de commerce.
C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Bayrou a été ministre de l'Éducation nationale, où il n'a entrepris aucune des réformes qu'il prétend faire demain. Il est le patron d'une formation politique, l'UDF, qui a toujours été une grande formation politique de la vie politique française, et qui a été au pouvoir. Je serais tenté de lui objecter le mot de Pagnol, hein. La virginité, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Par conséquent, je crois que c'est un peu difficile aujourd'hui pour Monsieur Beyrouth de s'en refaire faire une. Encore que paraît-il, il y a des chirurgiens qui sont spécialisés dans ce domaine.
Bruno Gollnisch, avec mon camarade Olivier Truchot, nous avons listé trois raisons peut-être pour lesquelles Jean-Marie Le Pen ne pourrait être pas cette fois au second tour. On va voir si vous êtes d'accord ou pas. Première raison, d'abord, c'est Nicolas Sarkozy qui récupère les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est une bonne raison ou pas?
Non, je crois pas. C'est pas parce que Sarkozy dit qu'il faudrait un ministère de l'immigration et de l'identité nationale de la part de gens qui ont laissé rentrer une immigration massive et qui ont laissé se détériorer l'identité nationale. Il faudrait encore qu'ils disent ce qu'ils mettent dans ce ministère. Non, je pense au contraire que tout le monde se positionne par rapport à Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, j'entendais ce matin Madame Voynet, par exemple, qui disait ça, qui disait que cette rhétorique, c'était reconnaître que les analyses de Le Pen étaient justes. Elle le déplorait, évidemment, mais c'est comme ça.
Autre raison pour laquelle Le Pen ne pourrait pas être au deuxième tour, contrairement à 2002, il n'y a aucun candidat sortant. Il y a une nouvelle génération qui se présente. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Marie Le Pen.
Oui, mais d'un autre côté, on peut dire aussi que personne n'a de légitimité particulière. Et quand vous parlez, par exemple, de Beyrouth qui talonne, parfois, enfin, ça commence à redescendre, le soufflet retombe un peu, mais enfin, qui talonne les autres candidats, c'est très bien, ça ouvre d'une certaine façon l'offre, parce que Beyrouth, s'il prend des voix à quelqu'un, il les prend davantage à Sarkozy, à Madame Royal, et puis nous entrons dans une période brève, mais où les temps de parole des candidats sont égaux, et par exemple, les 5 candidats d'extrême-gauche, car il y a en France la 5 candidats d'extrême-gauche, ils vont taper sur la candidate socialiste, enfin en tout cas, sur ce qu'elle représente, et ça pourrait finalement avoir les mêmes effets que ça a eu dans le passé à l'égard de la candidature Jospin.
Et puis, troisième raison pour laquelle Jean-Marie Le Pen ne pourrait pas être au second tour, finalement, est-ce qu'on voterait pour un vieux monsieur? Et pourquoi pas?
Si ce vieux monsieur a manifesté une clairvoyance exceptionnelle, s'il est en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels, beaucoup plus que certains jeunes gens déjà passablement décatis, si ce monsieur en question est un homme loyal, est un homme d'un courage extraordinaire et a manifesté par toute sa vie qu'il était au service de son pays.
Pendant cette campagne,
je vous signale qu'en 1914, plus exactement en 1917, quand la situation de la France est dramatique, quand elle risque d'être envahie, on va chercher
Clémenceau. On a cherché aussi le vieux Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a moins réussi.
Quand l'Allemagne est complètement ruinée, après la Deuxième Guerre mondiale, dévastée, qu'il faut tout reconstruire, on va chercher Adenauer. Les peuples ont prouvé, dans des circonstances extraordinairement difficiles, que précisément on a besoin de gens d'expérience.
Cependant, on trouve quand même qu'il se ménage beaucoup, Jean-Marie Le Pen, pendant cette campagne. Il fait pas beaucoup de meetings, il laisse beaucoup parler sa fille d'ailleurs, Marine Le Pen, qui le fait très bien. Mais est-ce qu'il a encore la capacité physique? Parce que c'est vraiment compliqué. À la fois la course vers le pouvoir, mais ensuite d'assumer le pouvoir.
Vous n'avez pas assisté à ces meetings pour dire ça.
Mais il en fait très peu.
Écoutez, il est venu à Lyon il y a pas très longtemps devant une salle absolument archi-comble et enthousiaste, et tout ça était éblouissant.
C'est un vieux jeune homme.
C'est un jeune homme qui a de la bouteille.
Bruno Gollnisch est avec nous aujourd'hui. Bruno Gollnisch, numéro 2 du Front National, député européen aussi. Bruno Gollnisch, on va parler bien sûr de l'Europe, on va parler de l'actualité du moment. CV Express pour vous, Bruno Gollnisch, tradition respectée dans les grandes gueules. Date et lieu de naissance, s'il vous plaît.
28 janvier, c'est la Saint-Charlemagne, 1950.
À quel endroit ?
Demi-siècle, à Neuilly.
Lequel ?
Sur scène.
Ah, chez Nicolas. Enfin, à l'époque, c'était qui? C'était Peretti.
Parce que l'hôpital était là. Mes parents n'habitaient pas Neuilly, d'ailleurs.
Profession des parents.
Mon père était comptable, expert-comptable, et ma mère était sans profession. Elle a été, avant son mariage, laborantine du laboratoire de physique de Monsieur le Prince Ringuet. Et après, elle aidait mon père aux travaux de son cabinet de comptable.
Poids et taille.
Oh là, hélas, 95 kilos, 1m80.
C'est les revenus?
les revenus, mes revenus de député sont de 6000 euros par mois comme député européen et comme conseiller régional 800 euros et je suis en ce moment banni de l'université française où je n'exerce plus et où je...
On va rappeler que vous avez été condamné à 3 mois de prison avec sursis en janvier hein, pour des propos sur les chambres à gaz.
Oui, mais c'est, je n'ai tenu aucun propos sur les chambres à gaz. Article 1, article 2, cette décision inique est frappée d'appel. La justice a mal parlé. C'est un outreau médiatique, cette affaire. Et j'ai fait appel. Je suis donc tout à fait présumé innocent. Et je vous signale que j'ai obtenu la condamnation de d'un de vos confrères, Monsieur Olivier Duhamel, qui avait déclaré que j'avais tenu des propos antisémites et qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris.
Donc vous n'avez plus de revenus en tant qu'enseignant. Les diplômes, justement.
Les diplômes. Je suis docteur en droit, lauréat de l'Université de Paris, diplômé de l'école des langues orientales en japonais et en malais indonésien, et puis de l'Institut d'études politiques de Paris.
Situation de famille.
Je suis marié et j'ai 3 enfants.
Langue pratiquée.
Anglais, japonais, portugais, un peu d'allemand, malais indonésien, j'ai encore quelques traces, voilà pour l'essentiel.
La religion ?
Catholique.
Et le bulletin de santé des GG, tension, cholestérol, pas de pépins.
Très mauvais, tension mauvais, cholestérol mauvais.
Bruno Gollnisch avec nous dans les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules.
Les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Gollnisch, député européen, Front National. Bruno Gollnisch, c'est le numéro 2 du parti de Jean-Marie Le Pen. On évoquait tout à l'heure la petite sortie du député de...
Jérôme Rivière.
Le député des Alpes-Maritimes, Jérôme Rivière, à propos d'une éventuelle alliance avec le Front National.
Alors, c'est un député UMP qui est un peu en rupture de banc puisqu'il n'a pas l'investiture pour juin et qui soutient non pas Sarkozy mais Philippe de Villiers. Néanmoins, Jérôme Rivière affirme qu'il faut un accord avec le FN, ça doit plus être un sujet tabou. D'ailleurs, il dit « Je ne fais que dire publiquement ce que la majorité des députés UMP pensent ». Il a souvenir de 97, après la dissolution, il y avait eu 76 triangulaires qui avaient donc opposé un candidat RPR, UDF à l'époque, à un candidat FN. Et la droite avait perdu pas mal de sièges à cause de ces triangulaires. Alors d'accord, Bruno Gollnisch, avec cette idée d'accord entre le FN et l'UMP ?
Ben, ça dépend avec qui.
L'UMP.
Sincèrement, nous avons essayé. Moi-même, par exemple, plutôt que d'avoir un président de la région Rhône-Alpes socialiste soutenue par les communistes, alors qu'il y avait partage des voix entre la gauche socialo-communiste et l'UMP, j'avais apporté, avec l'accord de Jean-Marie Le Pen, les suffrages des 30 élus du Front National
à
Charles Millon. Ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui avaient accepté nos suffrages, à qui nous faisions ce cadeau extraordinaire quand même, nous ne leur devions rien, de les maintenir à la tête de la région Rhône-Alpes, ils ont été ostracisés, exclus, bannis, à commencer par Jacques Chirac lui-même. Alors je crois qu'il faut d'abord que la droite parlementaire sache elle-même où elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Est-ce qu'elle veut vraiment sortir la France cette espèce de vassalité par rapport à l'eurocratie bruxelloise ? Est-ce qu'elle veut vraiment de la préférence nationale ? Est-ce qu'elle veut vraiment retrouver le rôle et l'influence qui était le nôtre sur la scène internationale ? Est-ce qu'elle veut vraiment mener à ces conditions-là ? Pourquoi pas ?
Nicolas Sarkozy vous a déjà répondu, il fait sa route tout seul.
Il vous pique des voix.
L'identité nationale, il en parle tout seul, il a pas besoin de
vous. Il nous pique des voix, ça attendez.
L'Europe, il en parle différemment.
Allez, attendez les résultats. Oui, c'est pas pareil. Attendez les résultats, ça c'est aux électeurs de le dire.
Eh ben, Emmanuel est militant UMP dans les Alpes-Maritimes et il vient de disparaître. Emmanuel, on va le retrouver dans un instant en direct au 32-16. Alors Bruno Gollnisch, allons-y pour ce qui fait l'actualité aujourd'hui de cette grande et belle France de 2017.
Juste un mot peut-être, je vous signale quand même que c'est Jean-Marie Le Pen qui a lancé le thème de l'union patriotique. L'union patriotique, ça vise tous les patriotes, que soit la couleur et que soit l'étiquette qui est la leur.
Alors dans l'actualité, vous en pensez quoi, Bruno Gollnisch, de plan de campagne qui ferme le dimanche ? Vous êtes pour ou contre l'ouverture du travail le dimanche ?
Je suis très réservé. Je l'avais dit quand j'étais député à l'Assemblée nationale. Je vous signale que le repos du dimanche, c'est une grande conquête sociale de la droite au 19e siècle. Pas du tout des libéraux ou des socialistes, de la droite sociale. Je suis très réservé parce que ce que je crains, c'est que le travail le dimanche facultatif ou autorisé pour certains employés, ça devienne le travail le dimanche obligatoire. C'est-à-dire que ceux qui voudront pas, ceux qui préféreront la vie de famille, par exemple, seront mal vus et ne seront pas, seront licenciés ou ne seront pas. Ou ne seront
Marine
pas
Le Pen nous disait ici qu'elle était pour qu'on laisse la liberté aux partenaires sociaux.
Oui,
de...
oui, qu'il y ait une liberté des partenaires sociaux, à condition que ça soit une vraie liberté, une vraie liberté, et encore une fois que ce qui est donné sous forme d'autorisation ne devienne pas une obligation.
D'accord ou pas avec cette mère de Mincy en Seine-et-Marne qui a privé de repas 9 élèves de l'école maternelle parce que les parents n'avaient pas payer la cantine.
Non, bien sûr, il faut donner à manger aux enfants, c'est clair. Ceci étant dit, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, et puis il y a des gens qui pourraient payer leur loyer et ou payer la cantine de leurs enfants et préfèrent dépenser l'argent qu'ils ont à d'autres choses en comptant sur la solidarité publique. Il faudra un jour ou l'autre quand même faire le partage.
D'accord ou pas avec la gratuité dans les transports publics pour les RMistes et leurs ayants droit, tels que la mise en place la région Île-de-France, Bruno Danich?
Je ne sais pas, pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas de revenus peut-être, mais on ne peut pas systématiquement donner la gratuité, parce que s'il y a la gratuité, ça veut dire qu'il y a, il y a plus d'instruments de mesure de l'efficacité, par exemple, d'un service public ou d'une entreprise. Et à ce moment-là, on va générer la gratuité partout, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Rien n'est jamais gratuit.
On évite les fraudes, dit en même temps Jean-Paul Huchon. Hein.
Ah oui, mais ça c'est une façon. Ça, on pourrait décider aussi que, par exemple, les autoradios dans les voitures sont la propriété du premier qui s'en empare. Comme ça, on éviterait de retrouver ceux qui les piquent devant le tribunal pour vol.
Et ce qui s'est passé à Gare du Nord, c'est une bataille ethnique, comme l'a dit Philippe de Villiers?
Bah, si on voit les images, on est tenté de penser qu'il a pas tout à fait tort.
C'est-à-dire que les Noirs sont pas français?
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a, évidemment, en banlieue, il y a des groupes violents qui se constituent sur des bases ethniques, qui peuvent être des groupes de Noirs, qui peuvent être des groupes d'Arabes, qui peuvent être des groupes juifs, qui peuvent être des groupes de Dupont ou de Martin. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les skins. Ça existe, ça. C'est ces groupes qui se constituent en fonction des couleurs de peau, des origines, des modes de vie, qui pratiquent la violence, et c'est le signe inquiétant d'une décomposition de la société.
Mais pourquoi ces regroupements ethniques? Quel est le but?
Mais c'est quand la société se décompose, quand il n'y a plus de règles admises par tous, quand il n'y a plus de référence à un patrimoine commun, quand il y a des zones de non-droit, et aussi c'est vrai, quand des jeunes gens ne se voient pas proposer un avenir, quand ils savent qu'ils ne trouveront pas de travail, ou que s'ils arrivent à trouver un travail, ce sera un travail pour un salaire de misère, ce que sont quelquefois payés les travaux manuels, les caissières des supermarchés, un certain nombre de travaux peu valorisants qui n'en sortiront jamais et qui ne pourront jamais, compte tenu par exemple des prix de l'immobilier, acheter leur propre habitation, fonder une famille et l'entretenir décemment. Eh bien, il y a, c'est vrai, des situations de désespoir de rupture de la société.
Il y a un propos,
c'est vrai,
que tient José Bové, il dit quasiment la même chose. Il dit que s'il y a de la violence, c'est parce qu'il n'y a pas d'avenir social pour ces gens.
Mais c'est le tort de M. Bové, qui est un candidat d'extrême-gauche et de l'extrême-gauche, c'est qu'ils attribuent la délinquance seulement à des causes sociales et économiques. Nous disons que la délinquance, elle a aussi des causes morales. Et elle a aussi des causes dans, par exemple, l'attitude des dirigeants, dans l'exemple qui a été donné de corruption, par exemple, au niveau le plus élevé de l'État, dans le fait, dans la destruction de la famille, par exemple. Ce sont des causes, et je ne pense pas que les solutions de José Bové soient bonnes, parce que Bové, malgré tout, il est mondialiste. Il le dit d'ailleurs, il a noté, il est alter-mondialiste. Certes pour un autre mondialisme, mais la circulation des marchandises, des capitaux dans le monde, ça génère la destruction de ce qui reste de l'économie française.
Et on a retrouvé Emmanuel, militant UMP dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Emmanuel.
Bonjour les grandes gueules.
On parlait il y a quelques minutes avec Bruno Gollnisch d'une éventuelle alliance UMP, Front National, telle que Jérôme Rivière l'évoque. Il dit, je me fais simplement que le porte-parole de beaucoup de gens à l'UMP, c'est ce qu'ils souhaitent, Emmanuel.
Oui, alors moi, ça tombe bien parce que j'habite à Nice, dans la première circonscription, là où Jérôme Rivière est UMP, est élu UMP, et il n'a pas eu l'investiture, comme vous l'avez dit, donc moi, je pense qu'il agit en opportuniste et qu'il va essayer de récupérer des électeurs Front National, parce que le Front National fait toujours des gros scores à Nice, et qu'il va essayer de mordre sur l'électorat pour essayer d'arriver au deuxième tour.
Mais vous, vous êtes sympathisant UMP ?
Oui, 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 je suis sympathisant.
Et alors, cette alliance, vous en pensez quoi ?
Alors moi, pour l'instant, je suis contre. Tout simplement, même si je pense qu'au Front National, il y a des bonnes idées, je suis contre parce que ça va peut-être pas plaire à M. Gollnisch, c'est ce que je vais dire, mais moi, c'est M. Le Pen qui me dérange parce qu'il fut un temps où il a dit des choses un petit peu tendancieuses. Et je veux dire même...
Ce sont les propos, les dérapages de Le Pen qui...
Les dérapages verbaux, les durs à four crématoires, les choses comme ça. Bon, j'ai 40 ans, donc je me rappelle de certaines choses.
Mais...
Oui, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut pas plaisanter et que d'ailleurs il a.
Mais vous dites Emmanuel, vous dites pour l'instant, pourquoi ça veut dire que c'est envisageable ensuite ?
Ben, je pense que si le Front National a un nouveau leader.
Qui ça par exemple ?
Peut-être Marine Le Pen ou Monsieur Gollnisch, je sais pas. Un nouveau leader veut dire peut-être un nouveau discours. Vous comprenez bien que quant à l'UMP, c'est Alain Juppé qui est en tête, et quand c'est Sarkozy, c'est pas le même discours vraiment. Si un jour c'est Villepin, ce sera pas non plus le même discours. Au Front National, je pense que même si sur la fond, ça reste globalement la même chose, il peut y avoir quand même...
Alors, question de personnalité, Bruno Gollnisch.
Alors, monsieur, je vais vous répondre. Il y a beaucoup de choses à répondre à ce que vous avez dit. D'abord, sur le jeu de mots de Durafour, écoutez, est-ce que vous êtes un homme intelligent ? Est-ce que ça suffit à disqualifier, comme le disait tout à l'heure ces messieurs, 50 ans d'une vie politique exemplaire,
de sacrifice,
pour le pays, d'un combat extraordinaire, dans un pays quand même où il y a une certaine liberté de ton, premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas été choqué, semble-t-il, mais sans doute ne l'avez-vous pas su, par les accusations que Durafour avait lancées contre Jean-Marie Le Pen. Troisièmement, j'observe quand ce jeu de mots, il est le fait du canard enchaîné contre un général au moment de la guerre d'Algérie qui s'appelait Dufour, toute la gauche s'esclaffait en trouvant ça très drôle. Que le canard enchaîné parle de Dufour crématoire.
Pour Emmanuel, alors vous comprenez, pour Emmanuel, il y a quand même un problème de personnalité avec Jean-Marie Le Pen, mais il se dit le FN sans Jean-Marie Le Pen, donc dans l'avenir, pourquoi
plus
pas
plus fréquentable.
Alors je vais vous dire, monsieur, quiconque mènera ce combat en tête, comme chef de file, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit moi-même, que ce soit n'importe qui, peut-être vous demain, je ne sais pas. Celui-là, on lui trouvera ses dérapages, on lui mettra le képi du maréchal Pétain, on inventera n'importe quoi à son sujet. Parce que contrairement à ce que l'on croit, ce genre de réputation n'est pas le résultat de nos comportements ou de ce que nous sommes vraiment, il est le résultat d'une campagne de diabolisation qui est méthodiquement et avec... toujours de la même façon, comme je le constate en Europe,
oui,
utilisé contre toutes les forces qui s'élèvent contre la disparition des identités nationales.
Toutefois, avec Marine Le Pen, le discours a quand même un peu changé, sur la forme, peut-être pas sur le fond. On semble quand même qu'avec Marine Le Pen, il y a une volonté de faire un Front National light, présentable. Bien sur tout rapport.
Mais je crois que
est-ce que c'est votre stratégie aussi, Bruno Gollnisch?
Je crois que le Front National est présentable et bien sous tout rapport, sans avoir besoin d'être light. Ouais. Je crois d'ailleurs aussi que c'est le point de vue de Marine.
En tout cas, vous avez quand même changé quand même le discours, parce que l'immigration est passée en second plan. Aujourd'hui, on vous entend parler sécurité routière, on vous entend parler aux petits commerçants, on vous entend parler 35 heures, plus seulement insécurité immigration. Donc, vous êtes bien rendu compte qu'il fallait aussi aller vers d'autres secteurs d'activité.
Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on parle de nos propos. Économique, par exemple, puisque nous sommes les seuls à dire que, à proposer une politique qui est exactement l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous avons une économie qui est surchargée de taxes, de contraintes bureaucratiques, de règles, de normes, et un marché qui est complètement ouvert et qui n'est plus protégé. À notre avis, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut raisonnablement protéger notre marché sur le plan international, ça ne veut pas dire l'isoler du reste du monde, et il faut en revanche alléger les contraintes sur le plan international. l'intérieur, nous avons quantité de propositions à ce sujet. Elles ne datent pas d'hier, mais on ne nous a jamais entendu. Mais tenez, je vais vous prendre un exemple. Un exemple. Nos propositions institutionnelles. En 1995, Jean-Marie Le Pen a fait campagne sur le thème de la 6e République. Dans cette 6e République, on mettait beaucoup de choses. Et je vois maintenant que le thème ressort
tout le monde met pas
dans la
chose.
Bouche de Madame Royal. Les propositions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est bien la preuve qu'elle considère aussi, que beaucoup de Français considèrent aussi, qu'il y a un problème de nos institutions en France, où les Français n'ont pas vraiment la parole sur le plan
politique. Et vous, Bruno Gollnisch, il reste une minute. Vous en êtes où? Vous êtes un fidèle numéro 2 de Jean-Marie Le Pen. On vous voit moins que Marine Le Pen dans les médias. Quel est votre avenir, vos ambitions?
On me voit moins que Marine parce qu'on m'invite moins. Ça, c'est
alors
le choix.
Pourquoi
ça, c'est le choix. Ah bah écoutez, il faut le demander à vos... À vos collègues. En tout cas, vous m'avez invité, je suis venu. J'ai de toute façon beaucoup à faire. Jean-Marie Le Pen et mes collègues au Parlement européen de diverses nationalités et du Front National m'ont fait l'honneur de me demander d'être le président du groupe parlementaire que nous venons de fonder.
C'est Identité, Tradition, Souveraineté.
Exactement. Je suis également le représentant du Front National en région Rhône-Alpes.
Et un jour, vous voulez être président du Front National?
Et pour le moment, je m'efforce non pas d'organiser la retraite de Jean-Marie Le Pen, mais sa promotion à la tête de l'État.
Mais en même temps, gouverner, c'est prévoir l'avenir.
Écoutez, si c'était le cas, comme il m'a fait le redoutable honneur et l'amitié de dire qu'à ce moment-là, il compterait sur moi pour former le gouvernement, j'avoue que ça suffit tout à fait, non pas à mon bonheur, mais aux responsabilités auxquelles j'aspire, c'est vrai, comme nous tous,
si
dans l'intérêt de
un éternel
pays.
Numéro 2 du parti.
On n'en meurt pas.
Bruno Gollnisch était avec nous aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules. On se quitte avec le questionnaire. Les Grandes Gueules, un choix à faire, pas d'argumentaire à donner. Bruno Gollnisch, tout le monde y passe. Sego ou Sarko?
Bon, plutôt Sarko aujourd'hui, mais on verra demain.
José Bové ou Nicolas Hulot?
Nicolas Hulot.
Réforme ou rupture?
Une rupture.
Dubosc ou Dujardin?
C'est difficile. Plutôt Dujardin, peut-être.
Renaud ou Raphaël?
Renaud ou Raphaël?
Chanson, là.
Oui. Raphaël.
Sushi ou rôti?
Sushi. C'est plus léger.
Et puis avec une épouse japonaise, ça ne me donne pas aussi.
Ben justement, elle m'en fait pas beaucoup, alors je serais content d'en manger.
Harry Roselmack ou Patrick Poivre d'Arvor?
Plutôt Patrick Poivre d'Arvor.
OM ou PSG?
PSG.
Enterré ou incinéré?
Enterré.
Merci
beaucoup. Ah, j'y pensais justement. Incinéré, les bouddhistes incinèrent, oui, parce qu'ils pensent que la personne disparaît après la mort et que les éléments qui la composent se réincarnent de différentes façons. Les chrétiens n'incinèrent pas, enfin, la plupart d'entre eux, parce qu'ils croient à la résurrection des corps. Voilà, j'y pensais ce matin justement. Voilà, mais je crois que nous allons tous faire notre salut éternel.
Bruno Gollnisch, nous on va saluer Sego et Sarko, ils sont dans un bateau. Et c'est Carl Zero qui a compilé tout ça. Carl Zero, c'est le bonus GG, c'est dans un instant. Je me rends compte que les idées de Jean-Marie Le Pen sont en partie reprises par Ségolène et Sarkozy, peut-être sous différentes formes. Donc au premier tour, finalement je voterai pour Le Pen. Écrit René sur internet rmc.fr.
Sage décision.
Réaction aussi de Louis Durone qui vous écrit sur internet, Bruno Gollnisch. Jean-Marie Le Pen, il ne sera pas au second tour, il lui manquera les 2-3% que fera Philippe de Villiers.
C'est possible, c'est peut-être pour ça que M. de Villiers bat la campagne, mais peut-être qu'il fera encore moins et que Jean-Marie Le Pen sera quand même au deuxième tour.
Réaction de Jean-Claude Dordogne, pourquoi Jean-Marie Le Pen a-t-il pardonné à Bruno Maigret?
Parce qu'il a lancé un appel à l'union patriotique compte tenu de la gravité de la situation du pays et qu'à partir du moment où Bruno Maigret répondait favorablement, il était quand même difficile de dire je veux l'union avec certains mais pas avec d'autres. Je crois que le pardon des offenses est à la fois moralement louable et nécessaire au bien commun.
Et maintenant, il faudra donner quelques circonscriptions à Maigret. Hein.
Ça, c'est une demande que fait Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen en discutera, je pense.
Jean-Marie Le Pen, le candidat anti-système, écrit Stan par SMS, mais ça fait 50 ans de vie politique, donc il s'est aussi accommodé du système, Bruno Gollnisch.
Non, parce que en 50 ans, il a fait entendre sa protestation légitime contre contre précisément la façon dont évoluait ce système et dont il était incapable de défendre les droits des Français. Par conséquent, c'est pas parce que vous menez une bataille depuis 50 ans que vous êtes rangé dans le camp de l'ennemi.
Merci Bruno Gollnisch. Merci d'avoir été avec nous.